Vous écoutez, on lit pour vous.
Une nouvelle génération. Déjà? Un texte de Lila Dussault paru le 12 janvier 2025 dans la presse. Les enfants nés à partir de 2025 vont voir le monde se transformer d'une façon encore difficile à imaginer. Jusqu'à, pour la majorité d'entre eux, accueillir l'arrivée du 22e siècle. Voici ce qui attend la génération bêta. Encore une nouvelle génération. Vous perdez le fil? Vous n'êtes pas seul. Après les milléniaux, les générations Z, puis Alpha, voici la génération dite bêta. C'est du moins ce qu'a annoncé la firme de recherche australienne McCrandall le 1er janvier 2025. Les bêta vont naître entre 2025 et 2039. Ce qui signifie qu'une bonne partie d'entre eux devraient être encore vivants au tournant du 22e siècle. D'ici 2035, ils devraient représenter 16% de la population mondiale selon les prédictions de McCrandall. Pourquoi bêta? McCrandall utilise les lettres de l'alphabet grec pour nommer les nouvelles générations. Après la génération Z, la génération alpha a donc vu le jour. Bêta est la deuxième lettre de l'alphabet grec. Nous les avons nommés alpha et bêta pour signifier l'arrivée non seulement de nouvelles générations, mais aussi des premières générations qui seront façonnées par un monde complètement différent, lit-on sur le site de la firme. Un monde en transformation. Les membres d'une même génération sont élevés dans un contexte social, économique et environnemental qui touche les vies, qui marque les vies, explique en entrevue Erin Strump, directrice du Centre sur la dynamique des populations de l'Université McGill. Des événements marquants, à des âges clés, relient aussi les membres d'une même génération, soutient-elle. C'était par exemple les attentats du 11 septembre pour les milléniaux, génération Y. Ou encore la pandémie pour la génération alpha. Qu'est-ce qui va affecter la génération bêta? Difficile à dire pour le moment, souligne Mme Strumpf, qui souligne « Mais ces jeunes vont vivre avec de grandes incertitudes, de grandes tensions. » Tandis que pour nous qui avons grandi dans les années 1980, 1990 ou 2000, le monde était plus stable. On peut notamment penser à la crise climatique, au changement dans la population mondiale ou à l'urbanisation accélérée, détaille la firme McCrandall. Pour les bêta, le développement durable ne sera pas qu'une préférence, mais une obligation, tranche la firme australienne. Cette génération sera élevée par des parents milléniaux et les plus âgés de la génération Z qui privilégient l'adaptabilité, l'égalité et la conscience écologique dans leur parentage. Omniprésente technologie. Autre certitude du côté de McCrandall. Les nouvelles technologies imprégneront la vie des bêta. Selon la firme McCrandall, si la génération alpha a expérimenté la montée des technologies interactives et de l'intelligence artificielle, la génération bêta va vivre dans une ère où l'IA et l'automation sont entièrement intégrées à la vie quotidienne, de l'éducation au travail, en passant par les services de santé et de loisirs. Ces enfants seront aussi parmi les premiers élevés par des parents qui ont aussi grandi dans l'essor des nouvelles technologies. Ça va toucher la façon dont les familles interagissent, comment elles profitent de leurs loisirs, comment elles comprennent le système d'éducation, etc., remarque Erin Strumpf. Un concept critiqué. Tous ne s'entendent ni sur les dates, ni sur les définitions des différentes générations. Au point où l'Institut de recherche américain Pew, chef de file dans le domaine, a cessé de mener des études à ce sujet en 2023. Le champ des études générationnelles a été inondé avec du contenu souvent vendu comme de la recherche, mais qui s'apparente davantage à des pièges à clics ou à de la mythologie de marketing, a dénoncé l'Institut américain. Il a été démontré qu'il y a plus de disparités à l'intérieur des générations qu'entre les générations, renchérit Gaëtan Namouric, stratège et chargé de cours à HEC Montréal. Par exemple, Spotify a démontré que 40% de la liste d'un ado de 14 ans est la même que celle de son grand-père, ajoute-t-il. Les généralités attribuées à certaines générations sont simplement fausses, estime aussi celui qui a fondé la firme stratégique Perrier-Jablonski. Les études menées pour ses clients ont déboulonné plusieurs mythes attribués aux générations. On s'est fait toutes sortes d'images des baby-boomers, de la génération X, des millénarios, selon Gaëtan Namouric. Des images faciles à véhiculer, mais qui ne sont pas vraies. On confond l'époque, l'âge et la génération. Erin Strumpf reconnaît les limites des études générationnelles, mais selon elle, comprendre l'impact du contexte social sur les individus d'une même cohorte demeure utile. L'idée, c'est plus d'être conscient que les générations ont une expérience un peu partagée dans les grandes lignes, nuance-t-elle. Mais il reste évidemment des individus là-dedans qui ont des expériences uniques. À quelle génération appartenez-vous? Avant 1925, génération grandiose, 99 ans et plus. 1925 à 1945, génération de l'entre-deux-guerres, aussi appelée génération silencieuse, 80 ans et plus. 1946 à 1964, baby-boomer. De 61 à 79 ans, les membres de cette génération sont les plus nombreux au Canada. En 2021, pour la première fois, ils représentaient toutefois moins du quart de la population canadienne selon Statistique Canada. 1965 à 1979, génération X, de 44 ans à 59 ans. Cette génération a d'abord été nommée celle du « baby bust », étant donné la chute du taux de natalité après les « baby boomers ». 1980 à 1994, génération Y, soit les milléniaux, de 31 à 45 ans. Il s'agit de la génération qui a cru le plus rapidement au pays, selon Statistique Canada. D'ici 2029, le nombre de milléniaux devrait être plus important que celui des baby-boomers. 1995 à 2009, génération Z, aussi appelée Zoomer, de 16 à 30 ans. 2010 à 2024, génération Alpha. Enfants âgés de 15 ans et moins, ils ont vécu la pandémie et ses effets pendant leur enfance. Nous avons utilisé les dates de la firme MacRindle qui diffèrent de celles utilisées par d'autres instituts de recherche. Selon les études, les années de naissance séparant les différentes générations peuvent varier en fonction de la définition choisie et du contexte social, économique et politique propre à chacune des régions du monde, indique Annick Irakoz des relations avec les médias de Statistique Canada. C'était Une nouvelle génération, déjà, un texte de Lila Dussault, paru le 12 janvier 2025 dans La Presse.
La force cachée des marécages. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 20 décembre 2024 dans Le Devoir. Au beau milieu d'une terre agricole de Baie-du-Fèvre, ancienne prairie humide du lac Saint-Pierre, se dresse une curieuse tour de métal, haute d'une dizaine de mètres. À son sommet, des instruments mesurent les échanges gazeux de carbone entre le sol, un amalgame de glace et de boue, en cette mi-décembre, et l'atmosphère. Malgré son air anodin, cette tour à flux participe à l'un des programmes de recherche les plus ambitieux jamais menés au Québec au sujet du carbone qui se cache sous nos pieds. les milieux humides, tourbières, marécages, marais, stockent au Québec seulement des milliards de tonnes de carbone. Dans leur sol spongieux, la matière organique s'accumule au fil des millénaires. Perturbez ces milieux et vous risquez de réveiller le tigre qui sommeille en eux. D'un coup, leur carbone peut se décharger dans l'atmosphère et accentuer par le fait même le réchauffement climatique. Bien que ce phénomène soit compris, on connaît mal ces particularités en contexte québécois. En 2020, je pensais profiter des 5 dernières années de ma carrière pour apprendre à ralentir le rythme un peu. Finalement, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, lance rieuse la géographe Michèle Garneau, professeure à l'Université du Québec à Montréal et capitaine d'un nouveau programme scientifique sur le carbone des milieux humides qui implique 5 universités, 18 étudiants-chercheurs, 6 techniciens et un financement de plus de 12 millions de dollars. Tout juste arrivé à Baie-du-Fèvre en compagnie du Devoir, le technicien David Tréjou enfile un épais manteau fluorescent et saisit de gros sacs à l'arrière du pick-up. Je vais nettoyer les miroirs de l'instrument qui mesure la concentration de gaz grâce à un faisceau infrarouge, explique-t-il en marchant en direction de la tour à flux érigée en juillet 2024, la première des 9 stations de mesure prévues. À l'extrémité d'un bras métallique qui s'étire depuis le sommet de la tour, des capteurs mesurent le CO2, le méthane, CH4, et la vapeur d'eau. Un autre appareil déployant des griffes mesure la vitesse du vent en 3 dimensions. Pour calculer les flux de gaz, il faut mesurer la turbulence dans l'atmosphère, explique Sarah Knox, professeure à l'Université McGill et spécialiste des tours à flux. Des lectures sont prises 20 fois par seconde. D'autres capteurs mesurent la température, l'humidité, la hauteur de la nappe phréatique, l'épaisseur de la neige, etc. Chaque printemps, ce champ est inondé par une généreuse crue qui déborde du lac Saint-Pierre. Des pompes évacuent l'eau au-delà d'une digue artificielle. Ici, on retrouvait probablement une grande prairie humide avec des herbacées, des aulnes, du myrick et des saules, souligne Mme Garneau, une scientifique rassembleuse et dynamique. Quand on assèche la terre, l'oxygène y pénètre plus facilement, ce qui accélère la décomposition de la matière organique et, donc, les émissions de CO2, poursuit-elle. Dans une zone humide naturelle, on voit plutôt l'inverse. Trouver les sites idéaux. Avec leur nouveau programme, les scientifiques veulent calculer le flux net de carbone entre la terre et l'air, c'est-à-dire la somme des émissions et des absorptions d'un bout à l'autre d'une année. Typiquement, en été, les plantes emmagasinent du carbone en poussant. Le reste de l'année, les microbes décomposent la matière organique et relâchent du CO2 ou du méthane. Le flux net, c'est la différence entre la photosynthèse et la respiration, résume Mme Knox, copilote de ce projet unique au Canada par son ampleur. D'un site à l'autre, le flux de carbone peut changer du tout au tout. Une tourbière naturelle absorbe généralement 25 grammes de carbone par mètre carré par année. À l'inverse, une tourbière drainée et cultivée, dite perturbée, peut émettre 100 grammes de carbone par mètre carré annuellement. Il est donc crucial de réaliser des mesures dans différents types de milieux humides, marais, littoral, marécages arborés, tourbières ouvertes et tourbières forestières, en conditions naturelles et perturbées. Vous écoutez « La force cachée des marécages », un texte d'Alexis Riopel paru le 20 décembre 2024 dans Le Devoir. L'équipe espère installer 5 tours à flux qui coûtent 500 000 $ chacune en 2025. une deuxième station sera installée cet hiver dans un marécage arboré de la réserve naturelle de la Tourbière du lac à la Tortue en Mauricie. L'équipement y sera livré par hélicoptère. Deux autres tours à flux doivent être établies près du lac Saint-Pierre, l'une dans un marais restauré en 2016 par l'organisme Canard Illimité, l'autre dans un marécage arborescent à l'état naturel. Avec Le Devoir, l'équipe se rend dans le secteur envisagé pour cette troisième tour du lac Saint-Pierre. S'y trouve un immense marécage jaunâtre, des bouquets d'érables argentés et de gros saules croches. On voit la ligne des eaux printanières sur les troncs. Deux techniciennes ont arpenté le secteur tout l'avant-midi, à la recherche du site idéal, mais sans trouver la perle rare. Ce serait vraiment cool d'avoir une tour ici, pointe Sarah Knox sur une carte durant un conciliabule avec ses collègues. Jusqu'à présent, obtenir des permis pour accéder au site, un véritable casse-tête, ralentit la progression de l'équipe. Avec le ministère de l'Environnement. La professeure Garneau mène le projet en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec, MELCCFP. En 2017, un amendement à la loi sur l'eau reconnaissait pour la première fois que les milieux humides et hydriques contribuent à la séquestration du carbone. Trois ans plus tard, le ministère a interpellé la spécialiste de l'UQAM pour développer un protocole de comptabilisation du carbone stocké dans les milieux humides. Elle a accepté le mandat. On ne voulait pas que ça reste entre les murs de l'université, mais plutôt que ça devienne un outil de science citoyenne, explique la géographe. Le guide, finalement publié en mai 2024, se destine aux non-initiés. Des municipalités, des organismes ou des promoteurs peuvent s'en saisir pour savoir quelle quantité de carbone se cache dans un milieu humide menacé par un projet de développement, par exemple. Des mesures simples prises sur le terrain, comme la profondeur du sol, servent de base au calcul. Les utilisateurs peuvent déposer leurs résultats dans une base de données nationale. Fin 2022, la direction adjointe de la conservation des milieux humides du MELCCFP demande à Mme Garneau s'il est possible de savoir combien d'émissions de carbone entraînent le drainage d'un milieu humide. Or, pour cela, il ne faut pas seulement connaître le stock de carbone, mais aussi prévoir son évolution après la perturbation. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter du projet des tours, indique la chercheuse. En avril 2023, le gouvernement du Québec injectait 8,7 millions dans le projet depuis son Fonds d'électrification et des changements climatiques, ex-Fonds vert. En novembre 2024, le fédéral y ajoutait 3,4 millions. Grâce aux résultats du programme de recherche, on saura dans quelques années dans quelle mesure les zones humides du Québec, qu'elles soient protégées, dégradées, détruites ou restaurées, absorbent ou relâchent du carbone. À bien noter, selon les conventions internationales, ces flux de gaz issus des terres ne s'inscrivent pas dans les bilans nationaux de GES. Ils influencent toutefois réellement le climat de demain. Les gens du ministère de l'Environnement ont vraiment cette volonté de lutter contre le changement climatique et de garder le carbone là où il est, estime Mme Garneau, qui applaudit les énergies silencieuses à l'œuvre. C'était « La force cachée des marécages », un texte d'Alexis Riopel paru le 20 décembre 2024 dans Le Devoir.
L'abondance en humour, mieux vaut en rire ou en pleurer, un texte de Dominique Tardif paru le 11 janvier 2025 dans La Presse. Selon le décompte de La Presse, une quinzaine de premières médiatiques de spectacles d'humour auront lieu à Montréal entre janvier et mai 2025, avant de poursuivre leur chemin partout au Québec. Une multiplication de l'offre que tendent à confirmer les chiffres. Mais n'y a-t-il là que matière à rire? Prenons juste la semaine du 7 avril 2025. Le 8, à la salle Pierre-Mercure, la grande gueule Mario Tessier révélera son troisième spectacle, Champion. Puis le 9, ce sera au tour de Mélanie Couture qui proclamera à l'Olympia que « ça change tout ». Avant que, le 10, au Lion d'or, Martin Pirizzolo nous apprenne durant le dramatiste ce que peut bien signifier ce néologisme. Vous aimez les vétérans? De janvier à mai 2025, Maxime Martin, Anthony Cavana et Stéphane Fallu inaugureront de nouvelles tournées. Les découvertes? David Bocage, Charles Brunet, Sylvie Tourigny et Alexandre Champagne amorceront, durant cette même saison, leur première virée du vaste Québec. Votre truc, c'est les paillettes. Rita Baga est de retour le 26 février 2025 avec un deuxième spectacle, Spraynette. Vous préférez votre humour quand il ne repose pas que sur le stand-up? Alain Choquette et André-Philippe Gagnon répandront leurs magies respectives. Ce n'est pas encore assez. Ajoutez à cette liste les noms de Billy Tellier et d'Arnaud Soli, en plus des événements de Dave Godet et Taille TL qui s'empareront de la Place Belle. Et c'est sans compter tous les spectacles déjà sur la route, de Catherine Levac à Louis Morissette, en passant par Laurent Paquin et Mégane Brouillard, ainsi que ceux de Pierre-Yves Roy-Desmarais, Sam Breton, François Bellefeuille, Maud Landry et Mariana Mazza, qui ont amorcé leur processus de rodage ou sont sur le point de le faire. L'offre humoristique explose. Selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain rendue publique en octobre 2024, l'assistance globale de l'univers du spectacle au Québec a diminué de 19 % entre 2018 et 2023, alors que l'offre de spectacles en humour entre 2004 et 2022 a explosé de 195 %. Je pense qu'il y a une réelle diversification des publics en humour qui est parallèle à une réelle diversification des humoristes, observe David Laferrière, président du conseil d'administration de Rideau, une importante association de diffuseurs de spectacles. Chez ses 71 membres qui utilisent le système de billetterie Tuxedo, l'humour représentait, en 2024, 28,6 % des billets vendus contre 29,2 % pour la musique et 13,9 % pour le théâtre. Les comédie-clubs et les podcasts ont contribué à créer des niches, à développer des publics, ce qui fait que le spectateur moyen, qui va voir de l'humour, n'est plus le cliché qu'on pouvait s'imaginer à une autre époque. C'est tout le monde, explique David Laferrière. Pour Benjamin Faneuf, président et producteur chez Faneuf, la boîte derrière Louis-José Houd, François Bellefeuille et Rosalie Vaillancourt, ce foisonnement serait aussi la marque d'une industrie somme toute jeune, dont la croissance se poursuit. Des 12 humoristes qui étaient en tournée au Québec en 2002, souligne-t-il, il y en a seulement 2 qui ont pris leur retraite, Yvon Deschamps et Lise Dion. Et pendant ce temps-là, il y a des nouveaux qui sont apparus chaque année. Se diversifier. Des entreprises qui ne se consacraient pas à la rigolade se joignent même à cette prospère famille, comme Bravo, la maison de musique et talent que dirige Béatrice Martin, Cœur de pirate, dont l'humoriste David Bocage a rallié l'écurie. La majorité de nos clients sont des diffuseurs qui vont programmer plein de choses, de la danse, de la musique classique, du théâtre pour enfants, et si on est capable de leur faire une offre diversifiée, ça nous donne une chance comme business, explique Rémi Marsan, directeur spectacle chez Bravo. Une salle ne va pas programmer 14 bandes indie dans une même saison. Est-il plus facile de vendre un spectacle d'humour que de musique? Ce serait un raccourci de penser que l'humour est une machine à imprimer de l'argent, selon Rémi Marsan. L'humour a ses défis parce que, justement, il y a beaucoup d'offres. Il faut convaincre le consommateur que c'est dans ce projet-là qu'il doit investir son argent. Valeur refuge. Cette ribambelle d'occasion de s'esclaffer pourrait-elle créer des victimes? Il y a toujours quelqu'un qui écope, que ce soit la musique ou les humoristes de la relève, répond Benjamin Faneuf. C'est normal, même si c'est plate. Mais du point de vue du public, je ne vois rien de négatif à ce qu'il y ait beaucoup d'artistes qui sortent des shows. À l'heure où les spectateurs doivent faire des choix déchirants, compte tenu des bidoux plus rares dans le portefeuille, l'humour ressemble de plus en plus à une valeur refuge qui offre aux clients précisément ce à quoi ils s'attendaient. C'est sûr que les humoristes sont omniprésents. Ils écrivent dans le journal, passent à la télé, à la radio, remarque David Laferrière de Rideau. Donc, ils finissent par se bâtir un public qui sait à peu près à quoi s'attendre. Ce sont des shows qui sont rodés au quart de tour et qui, il faut le dire, sont généralement un peu moins exigeants. M. Laferrière craint moins, dit-il, l'effet potentiellement délétère de l'humour sur les autres disciplines que le phénomène de désertion des salles. Selon la même étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la proportion de Québécois qui ne consomment aucun spectacle dans une année est passée de 35 % à 43 % entre 2018 et 2023. Et il faut le dire, conclut-il, si les diffuseurs aiment autant l'humour, c'est aussi parce que c'est un milieu dégourdi, qui a toujours deux coups d'avance en matière de présence dans les médias électroniques et sociaux, qui cultive son lien avec les fans à travers des codes promo et des mises en vente exclusives. C'est un milieu qui ne tient jamais rien pour acquis. C'était L'abondance en humour, mieux vaut en rire ou en pleurer, un texte de Dominique Tardif, paru le 11 janvier 2025 dans la presse.